Les deux orphelines, troisième partie, chapitre 3. À peine la porte s'était-elle refermée sur le lieutenant de police que Madame de Lignières saisissait vivement les deux mains de son neveu. Et d'une voix maternelle, émue et caressante à la fois, elle interrogea sans hésitation. « Roger, quelle est la femme que tu aimes ?» Elle avait deviné ce qui se passait dans l'esprit de ce jeune homme. Elle avait lu, dans les yeux du chevalier, ce que celui-ci cachait au plus profond de son cœur. Elle avait compris qu'en formulant si énergiquement son intention de rester libre, celui qui refusait un mariage princier nourrissait une de ces espérances qui élèvent l'âme au-dessus des considérations banales de la vie. Et tandis que M. de Lignières n'avait vu, dans le refus que lui avait infligé le jeune homme, qu'un désir coupable de persévérer dans l'existence de folie et de débauche, la comtesse avait discerné, dans les paroles si fermes, si résolues de Roger, une intention inébranlable de défendre l'amour qu'il avait au cœur contre tous les assauts qu'on lui ferait subir. Pour elle, qui se mourait de souvenirs ineffaçables, Roger avait au front l'auréole des martyrs du cœur. Et avec un tendre empressement, elle lui dit « Quel obstacle te sépare d'elle et t'a empêché de demander sa main avant que le roi n'ait eu la pensée de te marier ?» Puis, comme si elle eût voulu donner à cet enfant d'une sœur bien aimée et tant regrettée une nouvelle preuve de sa sollicitude, « S'il ne s'agissait que de fortune, murmura-t-elle, j'ai la mienne, je l'aurais donnée. » Roger se sentit consolé des amertumes dont il avait été abreuvé l'instant d'avant, pendant cette pénible conversation avec M. de Lignières. La voix aimée de la comtesse, ses paroles si douces, si émues, imposaient à son cœur la confidence de son amour. Elle avait le droit, elle qui avait souffert sans espoir, d'apprendre comment on espère en souffrant. Alors, levant sur la comtesse des yeux où brillait l'expression de la reconnaissance la plus émue, de l'affection la plus pure, « Oh, quel cœur est comparable au vôtre » s'exclama-t-il dans un élan d'indicible tendresse. Et cette confidence lui vint aux lèvres. « Oui, j'aime une jeune fille, la plus charmante, la plus pure, la plus honnête. » Puis, baissant les yeux sous le regard inquiet de la comtesse, le jeune homme ajouta « Je l'aime, et jamais je n'ai osé le lui dire. » Madame de Lignières savait que désormais elle pouvait interroger. « A-t-elle un nom? Une famille ? » demanda-t-elle. « Elle est née dans le peuple, » répondit le chevalier de Vaudrey sans hésitation. Et, lentement, comme s'il eût voulu faire de son blason un piédestal à cette fille du peuple qu'il trouvait digne de son respect autant que de son amour, Roger ajouta fièrement. « Elle est orpheline et elle vit de son travail. » La comtesse eut un soubresaut. L'enthousiasme du gentilhomme était venu à l'improviste se heurter à son orgueil de patricienne. Et cette exclamation lui échappa, irréfléchie, mortifiante, pour l'amour de Roger. « Et c'est d'elle que tu veux faire ta femme ?» Il y eut quelques secondes de silence entre ces deux êtres qui s'étaient voués une si inaltérable affection, silence également pénible pour tous deux. Roger sentit qu'il devait restituer à celle qu'il aimait la place qu'il la jugeait digne d'occuper dans l'estime de Madame de Lignières. « Oh, ne la jugez pas sans la connaître » dit-il. Il avait peine à dissimuler son émotion. Une phrase demeurait suspendue au bout de ses lèvres. Ses yeux allaient chercher les yeux de la confidente effarouchée par cet aveu inattendu. La comtesse ne se trompa pas à cette attitude embarrassée. « Parle, parle franchement, Roger, » fit-elle. « Qu'as-tu encore à me dire ?» Le chevalier surmonta son hésitation. Il s'enhardit à prononcer ces mots d'un ton ému. « Si vous consentiez à la voir, je suis certain que vous me diriez alors... « Je te dirais, » interrompit la comtesse avec véhémence, « qu'un pareil amour ne peut être, pour elle et pour toi, qu'une source de chagrin et de larmes, et qu'il faut y renoncer. » Puis, assurant sa voix qui tremblait sous l'influence de l'animation qu'elle mettait à convaincre son interlocuteur, « Je te dirais, Roger, tu dois obéissance au roi et à ta famille. « Vous me diriez cela, » s'exclama Roger. « Vous, vous qui avez tant souffert, vous, la victime de cette obéissance dont vous me faites un devoir et qui vous a brisé. » La comtesse de Lignières jeta un cri, et debout, les yeux effarés, le sein haletant, La lèvre frémissante, elle s'écria. Qui te l'a dit? Qui t'a découvert ce secret? Qui t'a dévoilé cette douleur qui me torture, hélas, depuis tant d'années? Et succombant à l'émotion, vaincue par la souffrance qui se réveillait, dans son âme plus violente que jamais, la malheureuse femme fondit en larmes. Toute cette contrainte qu'elle avait dû s'imposer depuis si longtemps, toute cette comédie du calme sur le visage, alors que l'âme était à la torture, toute cette résignation en attendant la mort qui réunit là-haut pour une éternité d'amour ceux que la fatalité a séparés dans ce monde, tout cela s'était évanoui à la voix de Roger. Le chevalier était revenu à lui-même. À celui qui venait d'évoquer de déchirants souvenirs, incombait le droit d'apaiser le cœur dont il venait de réveiller les souffrances. Il fléchit le genou devant cette victime de l'obéissance filiale. Il prit dans les siennes les mains de la comtesse, les y retint dans une étreinte affectueuse, et lui dit. Il n'y avait qu'une âme au monde qui fût assez tendre, assez noble, pour apprécier et soutenir la vôtre, l'âme de votre sœur bien-aimée. Ta mère, fit madame de Lignières dans un sanglot. Au moment de se séparer de nous pour toujours, ma bien-aimée mère exigea de moi le serment de me dévouer à vous tout entier, de vous protéger si le malheur venait s'appesantir sur vous. Je l'ai juré. La comtesse avait ouvert les bras et attirant Roger sur son cœur, elle prit la tête du jeune homme et la couvrit de baisers mêlés de larmes. Et tout bas, elle murmura à l'oreille de Roger. « Et elle t'a tout confié? Mes souffrances et mon désespoir? Ah, je comprends maintenant tes regards inquiets lorsque des larmes s'échappaient de mes yeux. » Et doucement, elle ajouta. « Tu disais vrai tout à l'heure, Roger. C'est le devoir, c'est l'obéissance qui m'ont brisée. » La comtesse sembla faire un effort sur elle-même, comme pour surmonter une hésitation. « Ce que ta mère t'a peut-être caché dans ses confidences, je vais te le dire, moi, comme à celui qui a juré d'être mon protecteur, de se dévouer tout entier à moi. » Et sans baisser les yeux, sans rougir devant celui qui la regardait avec tendresse, « Écoute, » dit-elle. Dans l'entraînement de l'amour et de la jeunesse, j'avais commis une faute. Celui que j'aimais était mort loin de moi. Et il fallait que mon enfant disparût, l'honneur de la famille l'exigeait, car ma main avait été promise au comte de Lignières. Il fallait tromper un honnête homme, c'est-à-dire condamner ma vie à un éternel remords, ou sacrifier la vie de ma fille. Et j'ai courbé la tête sous l'inflexible volonté de mon père. J'espérais que le ciel aurait pitié de la pauvre petite créature que j'ai à peine embrassée en lui disant adieu. En glissant dans son berceau le peu d'or que je possédais, et quelques lignes adressées à ceux qui prendraient soin d'elle, je me disais « Peut-être la reverrai-je un jour ?» Madame de Lignières s'était à plusieurs reprises interrompue pour essuyer les larmes qui coulaient de ses yeux fixés sur Roger. « Hélas, continua-t-elle, les jours, les années se sont écoulées, et toutes mes prières ont été vaines, toutes mes recherches ont été inutiles. » Le chevalier avait écouté silencieusement. Son esprit se reportait aux scènes qui avaient précédé le mariage de sa tante avec le comte de Lignières. Il évoquait le souvenir de ce père inflexible qui n'avait eu pitié ni des larmes, ni de la résignation de celle qu'il condamnait à une union forcée. « Oh oui, dit-il avec amertume, ils ont été bien cruels envers vous. »« Si cruels, s'exclama la comtesse, que je me demande parfois si je n'aurais pas mieux fait de leur crier. Eh bien, tuez-la !»« Oui. » reprit-elle avec animation. « Il aurait mieux valu la tuer. J'en serais morte et je n'aurais pas subi ce supplice de 16 années. Je ne me serais pas demandé pendant 16 ans. Que fait-elle? Au fond de quel abîme ce criminel abandon l'aura-t-il plongé? Et ce supplice non moins horrible de penser qu'elle m'accuse de sa misère, de sa honte peut-être, et qu'elle s'écrie dans son désespoir. Soyez maudite, mère sans cœur et sans entrailles. » Ah, cette malédiction terrible! Je l'entends à toute heure, jusque dans mes prières, jusque dans mon sommeil. Je l'entends toujours, toujours, toujours. » Vaincue enfin par la violence de son émotion, la comtesse alla s'affaisser dans un fauteuil. Le visage appuyé sur les deux mains, elle pleura longtemps. Le chevalier éprouvait maintenant comme un remords d'avoir évoqué des souffrances qu'il pouvait croire sinon apaisées, les mères n'oublient pas à ce point, du moins supportée avec résignation. Après quelques instants, il vint s'agenouiller devant cette mère éplorée, et il lui dit Eh bien, vous qui avez tant souffert, vous qui avez tant pleuré, me direz-vous encore d'obéir? Me conseillerez-vous encore d'enchaîner ma vie à la vie d'une femme lorsque j'ai le cœur plein de l'image d'une autre? Me le conseillez-vous? Dites. La comtesse s'était redressée avec une sorte d'énergie fiévreuse. Elle plongea ses regards dans les yeux du jeune homme, et d'une voix forte, comme si elle eût donné un ordre. « Non ! Non ! » s'écria-t-elle. À ce moment, la porte s'ouvrit et le lieutenant de police apparaissait dans l'entrebâillement. En toute autre circonstance, la comtesse n'eût pas manqué d'éprouver l'impression pénible que provoquait chez elle l'arrivée à l'improviste du comte de Lignières. Mais cette fois, en voyant entrer son mari, elle marcha résolument au-devant de lui. Et montrant de sa main tremblante le chevalier de Vaudray, demeuré à l'écart et le front incliné, elle s'écria d'une voix saccadée et fiévreuse. « Il faut avoir pitié de lui, monsieur le comte. Ne l'enchaînez pas malgré le cri de sa conscience et la révolte de son cœur. » Épuisant un nouveau courage dans le souvenir de ses 16 années de torture, « Ne les imitez pas, ces pères dont l'inflexible orgueil condamne leurs enfants au mensonge et au désespoir. » En même temps que monsieur de Lignières demeurait immobile, frappé de stupéfaction par ce langage véhément auquel ne l'avait pas habitué la comtesse, Roger s'était vivement approché de sa tante, et lui saisissant la main à la dérobée, il lui avait dit à voix basse « Prenez garde !» Ces mots rappelèrent madame de Lignières au sentiment de la prudence. Elle vit le danger et demeura silencieuse, atterrée devant son mari. Le comte de Lignières avait retrouvé ce calme, cette froideur qui glaçait l'épouse à la conscience timorée. Il s'avança vers elle, et d'une voix grave et imposante. « De quel orgueil, de quel mensonge, de quel désespoir parlez-vous donc » dit-il. Diane eut un éblouissement. Il semblait que, prise de vertige, et sa conscience se soulevant enfin après cette effroyable soumission qu'on lui avait imposée, elle était au moment de crier la vérité à l'homme qu'on l'avait forcé d'épouser. Mais ce ne fut qu'un éclair qui traversa l'esprit surexcité de la malheureuse. Elle eut un tressaillement, la pâleur envahit de nouveau son visage. Et tremblante sous le regard de son mari, elle balbutia. « Moi, je disais… » Le comte, témoin de ce trouble, fronçait les sourcils. Lui aussi, depuis 16 ans, avait passé par de violentes impressions. Lui aussi avait eu des alternatives d'espérance et de sombres découragements. Il avait pensé qu'un jour viendrait où cette mélancolie d'une femme aimée se dissiperait aux ardeurs de son amour, s'évanouirait à la longue, combattue patiemment par ses délicatesses, par ses attentions, par sa tendresse enfin. Mais l'instant était venu où M. de Lignières voulait pénétrer le secret de ses souffrances qu'il n'avait pu combattre victorieusement et de cet état de langueur qui s'éternisait. Si un doute terrible n'avait pas encore envahi son esprit, du moins était-il déjà au moment d'accueillir le soupçon repoussé bien des fois et qui revenait l'assaillir aujourd'hui plus tenace, plus violent que jamais. C'est sous cette impression que faisait naître le trouble et l'agitation de la comtesse qu'il s'écria « Parlez ! J'ai le droit d'exiger une réponse aux questions que je viens de vous adresser. Parlez, madame ! Parlez !» Le chevalier de Vaudray n'avait plus, pour porter secours à sa tante, que la ressource de tenter une diversion. Ce fut donc lui qui répondit au comte exaspéré. « Madame la comtesse, vous répétez, monsieur, tout ce qu'elle vient d'entendre de ma bouche. Elle vous disait la révolte de mon âme contre le mariage qu'on veut m'obliger à contracter, c'est-à-dire contre ce long supplice que vous prétendez m'imposer. » Monsieur de Lignières ne sourcilla pas à cette déclaration de son neveu. Il lui répugnait de donner un démenti qui serait allé atteindre la comtesse plus encore que le chevalier de Vaudray. Il feignit d'accepter cette explication comme suffisante. Mais Roger ne s'y trompa pas lorsqu'avec une froideur glaciale, monsieur de Lignières dit à la comtesse « C'est bien là, madame, ce que signifiaient vos paroles ?» Madame de Lignières fit un effort sur elle-même pour répondre d'une voix mourante. « Oui, mais je suis si émue, si troublée, vous le voyez, monsieur, je me soutiens à peine. » Elle avait chancelé. Le chevalier accourut pour la recevoir dans ses bras. « En effet, » dit le comte, et se tournant vers son neveu. « Chevalier, conduisez madame la comtesse jusqu'à son appartement. » Lorsque Roger se fut incliné et eut offert sa main à sa tante, M. de Lignières ajouta Vous reviendrez ensuite, Roger. J'ai besoin de vous parler.